Et je vais prier aussi, comme nous avons prié pour les enfants, notre Père Céleste. Merci. Merci de nous montrer ta vérité. Merci de nous parler au travers de ta parole. Merci de nous façonner. Et merci de nous aider à obéir à toi par la suite. Amen. Avez-vous déjà entendu parler de l'analyse SWOT, ou FOM en français? C'est un outil pour analyser la situation des organisations et on cherche à déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une organisation pour savoir comment avancer. Alors, quelle serait votre analyse SWOT de notre Église? Quelles sont nos forces et nos faiblesses? Quelles sont les opportunités qui se présentent devant nous? Quelles sont les menaces qui nous guettent? Si vous êtes visiteur ce matin, soyez les bienvenus. Je vous laisse réfléchir à ces choses pour votre Église. Aussi, en fait, vous êtes vraiment visiteur de cette Église pour la première fois, alors vous pouvez peut-être imaginer les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces pour une Église dans le 21e siècle. Ce matin, nous allons regarder quelques versets écrits par Paul à l'église de Thessalonique, une jeune église en Grèce. Et si vous aviez fait l'analyse SWOT de l'église de Thessalonique, alors le bilan n'aurait pas donné beaucoup d'espoir. Force, c'est une église fondée par l'apôtre Paul lui-même. Faiblesse, Paul a dû fuir très vite cette église pendant la nuit, sans dire au revoir, sans pouvoir faire son parcours de 5 semaines, comment avoir une église de choc. Opportunité, il y avait une église à Thessalonique, il y a déjà ça. Menace, alors les opposants de l'église de Thessalonique ont chassé Paul, non seulement de Thessalonique, mais même de la ville avoisinante. Et les mêmes persécuteurs continuent à rôder dans la ville de Thessalonique. Vous pouvez lire le récit pour vous-même dans Actes chapitre 17. Et donc Paul s'inquiète pour l'Église. Il essaie d'y aller, mais il ne peut pas. Alors, il envoie son ami, son collaborateur Timothée pour avoir des nouvelles. Il attend. Et puis un jour, ou plutôt toc, 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 quelqu'un sonne à la porte et c'est Timothée. Et avant que Timothée puisse même déposer sa valise, alors Paul demande les nouvelles de l'Église. Et quelques minutes plus tard, les larmes de joie aux yeux, Paul se met devant son bureau pour écrire. Et nous allons lire ensemble ce qu'il a écrit. Donc c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à la page 776 dans les Bibles blanches. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, je vais lire les versets 1 à 5. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Ce matin, nous allons voir trois choses. Nous allons voir l'assurance. C'est une église en Dieu, la reconnaissance, une église qui vit pour Dieu. Et encore plus d'assurance, une église fondée par l'œuvre de Dieu. Mais d'abord, l'assurance, une église en Dieu. Et je vais relire le premier verset. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'introduction plutôt habituelle des lettres du premier siècle, mais est-ce que vous avez remarqué le statut de cette église qui est loin d'être habituelle? Les chrétiens de Thessalonique sont en Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. Ils sont dans le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Ils ne sont plus des individus indépendants lâchés dans la vide. C'est une église tenue entre les mains du Dieu créateur. Et c'est une assemblée cachée dans le souverain de l'univers. Et quelle assurance pour une toute jeune église. Quelle force à ajouter dans notre analyse SWOT. Et cette église a reçu la grâce et la paix de Dieu. Ils sont gratuitement pardonnés de leurs fautes. Et ils ont désormais la paix avec Dieu. Et Paul souhaite que l'Église continue à connaître la grâce et la paix de Dieu dans sa vie quotidienne. Alors, malgré les faiblesses ou les menaces qui nous guettent, n'oublions pas le statut de notre Église et les cadeaux de la grâce et de la paix de Dieu. Nous ne sommes qu'une soixantaine de gens dans une commune de 30 000 personnes, mais nous sommes en Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes dans le Seigneur qui a reçu toute autorité sur la terre et dans le ciel. Quelle assurance une église en Dieu. Mais deuxièmement, la reconnaissance, une église qui vit pour Dieu. Et je vais relire le verset 2. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. La reconnaissance de Paul déborde pour cette église. Et quel éloge, quel encouragement pour les chrétiens de Thessalonique. Ça aurait chouette d'avoir été à Thessalonique le premier dimanche où ils ont lu cette lettre. Paul est toujours en train de remercier Dieu pour cette église. Mais pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il remercie Dieu? Le verset 3. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en être notre Seigneur Jésus. Voici les raisons et le contenu de la reconnaissance de Paul. Et ça vaut la peine de nous tarder un petit peu sur cette phrase. Est-ce que vous avez remarqué le trio chrétien qu'il y avait dans ce verset? La foi, l'amour et l'espérance. C'est une trio qui devrait caractériser toute église chrétienne et toute la vie chrétienne. Mais ce n'est pas une foi passive, ce n'est pas un amour inactif, ce n'est pas une espérance molle. Non, Paul reconnaît dans cette église toute jeune la foi qui œuvre, des gens qui agissent à cause de leur foi. Ils prient, ils prennent des risques, ils font confiance à Dieu, même dans des situations difficiles. Leur foi change la façon de vivre. Paul voit aussi l'amour qui travaille. Il montre l'amour pratiquement les uns envers les autres, entre chrétiens, mais à mon avis aussi envers leur communauté, même envers leurs ennemis qui les persécutaient. Et Paul remarque aussi l'espérance qui tient fermement, qui tient fermement à Jésus-Christ. Devant les souffrances actuelles, il ne jette pas l'éponge, mais il s'accroche à Jésus, il attend son retour et sa nouvelle création. Mais ce n'est pas non plus l'œuvre et le travail et la fermeté tout seul, ce qui pourrait être la description de n'importe quelle organisation humaine, n'est-ce pas? Des gens qui œuvrent et qui travaillent ensemble et qui tiennent un objectif. Non, l'œuvre des Thessaloniciens déborde de leur foi et non pas de leur confiance dans leur propre capacité. Leur travail déborde de leur amour et non pas la recherche de gains personnels. La fermeté est fondée sur la personne historique incontournable de Jésus-Christ et non pas sur un intérêt quelconque. La reconnaissance, une église qui vit à fond pour Dieu. Et quand je lis ces versets, je pense à mon église à Bruxelles. C'est une nouvelle implantation d'église. On pense que c'est la première nouvelle église, francophone à Bruxelles depuis 20 ans. Les membres n'ont jamais vu une implantation d'église, mais ils veulent partager l'évangile de Jésus avec un quartier qui a très très peu de témoignages chrétiens et il se lance. C'est l'œuvre de foi. Je pense à Jimmy, qui est très intentionné envers un jeune garçon d'une mère célibataire dans l'église. Il fait du sport avec lui. Il s'occupe de ce garçon quand sa maman travaille le dimanche après-midi. C'est le travail d'amour. Et je pense à des amis seniors qui ont vu les hauts et les bas de la vie. Peut-être leur santé commence à dégrader, mais ils restent accrochés à Jésus. C'est la fermeté d'espérance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui à la Garenne-Colombes? Je pense que ces versets nous avertissent contre l'activisme qui cherche à faire les choses sans que ces choses viennent de la foi, de l'amour, de l'espérance. Et si ce matin, vous ne vous dites pas chrétien, alors les activités de l'Église ne sont pas un substitut pour la foi en Dieu, pour l'amour de lui avant toute chose, pour l'espérance qui s'accroche à lui. Ces versets nous avertissent aussi contre la passivité, ou contre l'inaction ou la souplesse de nos convictions. Est-il temps de vous engager pour une tâche pratique ici à l'Église? Est-il temps de parler avec Trevor concernant le baptême. Est-il temps de dire à vos collègues que vous êtes chrétien? Mais attention, à ce point, je pense que nous pouvons tomber facilement dans l'autoflagellation. On peut se dire, oui, je dois faire plus. Oui, ma foi et mon amour sont passifs. Oui, mon espérance en Jésus est vacillante. Et peut-être c'est le cas. Mais Paul écrit aux Thessaloniciens pour les encourager. Pour les encourager. Alors d'abord, cherchons ces choses autour de nous et remercions Dieu pour ces choses. Et pourquoi pas aussi encourageant les uns les autres quand nous voyons ces choses. On peut dire les uns aux autres, je vois le travail de votre foi, l'œuvre de votre foi, la ténacité de votre espérance. Et je pense qu'il y a de quoi nous encourager, de quoi remercier Dieu. Je vois l'œuvre de foi dans la calendrier de prière que vous publiez chaque mois. Je prie avec vous à Bruxelles avec ce calendrier. Merci de vos prières pour moi, pour les autres étudiants et les professeurs de l'Institut biblique belge. Dieu entend ces prières, il répond. Merci. Je pense ça fait un an que vous faites deux cultes ici le matin pour que plus de gens puissent venir entendre parler de Jésus. Et c'est du travail. C'est du travail de foi. Je vois le travail d'amour dans l'enseignement qui se fait avec les petits et les grands. On peut remercier les moniteurs, les monitrices plus tard. Je vois le travail d'amour dans le ménage ou la cuisine qui se fait pour partager avec d'autres personnes des ministères cachés mais précieux. Je vois la fermeté d'espérance chez des amis ici qui s'accrochent à Jésus et qui témoignent de lui, même au milieu des situations difficiles. Des forces à ajouter à notre analyse SWOT et des forces qui vont produire plus d'opportunités dans une commune qui regarde ce que nous faisons. Nous avons vu l'assurance, une église en Dieu, la reconnaissance, une église pour Dieu, et nous allons finir avec encore plus d'assurance, une église fondée par l'œuvre de Dieu. Le verset 4. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Paul sait que c'est une église aimée de Dieu. Et Paul sait que dans son amour, Dieu a choisi cette église. Mais quand même, Paul, comment sais-tu que Dieu a choisi cette église? D'abord, Paul regarde la vie de cette église comme il a déjà décrit au verset 3. Et il sait que ceci ne s'explique que par l'œuvre de Dieu. Ensuite, pour avoir cette assurance, Paul regarde son ministère quand il était à Thessalonique. Le verset 5. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine conviction. Nous voyons que Paul a prêché l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus, en parole. Alors, petite parenthèse, il n'y a pas d'autre moyen. L'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, est un message qui doit être expliqué et entendu. Je pense que la devise « prêcher l'évangile toujours, utiliser des mots quand nécessaire » attribuée à François d'Assise n'est pas correcte. Non, plutôt prêcher l'évangile dès que possible. Utiliser des mots toujours. Mais Paul remarque quand même que l'évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Et là, voyez-vous un deuxième trio dans ces versets. L'évangile a été prêché avec puissance. Peut-être la prédication de Paul était-elle accompagnée par des miracles, mais je pense que surtout, la puissance de Dieu était à l'œuvre pour transformer des vies, pour transformer des vies. L'évangile a été prêché avec l'Esprit Saint à l'œuvre chez les messagers et chez les auditeurs. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de comprendre la bonne nouvelle de Jésus et de réagir de façon juste. Et il y avait une pleine conviction chez Paul et chez ses collaborateurs de la véracité du message. Le message de l'évangile, la mort de Jésus à la croix, afin de nous pardonner de notre façon de rebeller contre Dieu. Et la résurrection de Jésus semble un message incrédule, un message fou. Et les Thessaloniciens, et nous, à Paris, 21e siècle, nous sommes entourés par des réactions farouches contre ce message. Mais pendant un temps très court, des individus ont choisi de faire demi-tour et de faire confiance à Dieu. Et ceci ne s'explique que par l'œuvre de Dieu, à l'œuvre par son Esprit Saint, au travers de l'annonce fidèle et authentique de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu. Et si les Thessaloniciens avaient toujours des doutes sur la véracité de ce message, ou sur l'authenticité des messagers, alors Paul les rappelle qu'ils savent bien comment il s'est comporté à Thessalonique. La fin du verset 5, vous savez, en effet, comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Il n'y avait pas de duplicité, il n'y avait pas de manipulation, il y avait la puissance de Dieu à l'œuvre et le comportement irréprochable de Paul. Dieu a aimé les Thessaloniciens. Ils sont devenus chrétiens par l'œuvre de Dieu dans l'annonce fidèle et authentique de son message. L'assurance, quelle assurance, une église fondée par l'œuvre de Dieu. Et quelle assurance et encouragement pour les Thessaloniques et quelle force ajoutée à leur analyse SWOT devant les menaces ou les faiblesses qui les guettait. En l'année 2000, Bill Gates et sa femme Melinda ont créé la fondation Melinda et Bill Gates. Ils n'ont pas beaucoup cherché pour trouver un nom pour leur fondation. Et à mon avis, ils n'ont pas dû beaucoup chercher pour trouver des finances pour la fondation non plus. Savez-vous combien il vaut Bill Gates, le créateur de Microsoft? On dit qu'il vaut 70 milliards d'euros. Voici une fondation d'une fondation qui peut être rassurée, qui peut prendre des risques pour aller de l'avant. Des employés qui n'ont pas peur du lendemain, fondée par un des hommes les plus riches du monde, la fondation Bill et Melinda Gates peut avancer avec confiance. Soyons rassurés, parce que c'est Dieu, infiniment plus grand et plus riche, qui fonde son Église par son œuvre. Soyons dépendants de lui, pour fonder son Église. Prions que Dieu nous permette d'annoncer l'Évangile non seulement en parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Ici, le dimanche matin, le lundi matin, avec nos collègues à la Défense, le jeudi midi, avec nos familles, le samedi après-midi. Mais encore une fois, Paul dit ces choses pour rassurer, pour encourager les chrétiens à Thessalonique. Et peut-être les chrétiens à Thessalonique, ils commençaient à avoir des doutes sur leur conversion. Est-ce que ça vous arrive aussi de vous demander pourquoi vous êtes chrétien? Est-ce que ça vous arrive de douter de votre décision de suivre Jésus? Ici, je pense que Paul nous encourage de regarder en arrière. Oui, la personne qui m'a partagé la foi chrétienne, n'avait rien à gagner. Oui, le message que j'ai cru et que je crois aujourd'hui est cohérent. Non, il n'y avait aucune raison pour laquelle je suis devenu chrétien si ce n'est pas la vérité du message et l'œuvre de Dieu. Parfois, ça nous aide de regarder en arrière. C'est une analyse SWOT ou FOM en français à célébrer et qui nous encourage d'aller de l'avant malgré les faiblesses ou les menaces qui nous guettent. L'assurance d'une Église en Dieu, la reconnaissance pour une Église qui vit pour Dieu et encore plus d'assurance, une Église fondée par l'œuvre de Dieu. Je vais prier. Et puis, je passe la parole à Alex. Mais je lui donne quelques instants juste pour réfléchir, pour prier ou remercier Dieu vous-même. Merci à notre bon Père Céleste de ce que nous sommes. Nous sommes en Dieu le Père, nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu toute autorité. Merci à notre Père Céleste pour l'œuvre de foi, le travail d'amour et la fermeté d'espérance que nous voyons déjà dans cette Église. Et merci de nous aider à progresser encore. Et merci, parce que c'est toi qui fondes cette Église. Et merci de nous aider à annoncer l'Évangile, non seulement en parole, mais avec puissance, avec ton Esprit Saint et avec une pleine conviction. Amen.